Merci Guy pour la prédiction. Je vais vous inviter à trouver un roi, chapitre 18. Un roi, chapitre 18. Comme cela a été dit, nous commençons une série sur Dieu, qui est Dieu, qui est Dieu pour toi, qui est Dieu pour moi, pour nous. Et nous allons lire dans quelques minutes, quelques versets, ou presque tout un chapitre, dans 1 Roi 18. Mais auparavant, aujourd'hui, nous allons lire au sujet du prophète Élie sur le mont Carmel. Alors, le mont Carmel vous dit quelque chose peut-être, ou les Carmélites, ou les Carmes, parce que depuis 1616, les Carmélites sont installés à Lyon. Les Carmélites, c'est donc un ordre religieux catholique qui a été fondé par un croisé au XIIIe siècle. Et ce croisé est allé sur le mont Carmel, en Israël. Il a prié avec un groupe d'autres personnes et ils ont fondé les Carmélites. Et sur le mont Carmel, ils se sont rendus là parce qu'ils savaient que des siècles auparavant, quelque chose s'était passé sur le mont Carmel. Et c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Pour donner le contexte, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est une période de crise nationale à cause d'une sécheresse qui avait duré plus de 3 ans. Et cette sécheresse était sur place parce que Élie avait prié qu'il ne pleuve plus. Et Élie s'est basé sur des promesses de Dieu dans la loi de Moïse. À l'époque, le chef de l'État, c'était un roi qui s'appelait Achab. Et Achab était marié à une reine qui s'appelait Jézabel. Achab était une Israélite et sa femme était d'un autre pays, mais aussi d'une autre religion. Et si vous connaissez un peu la Bible, vous savez que Jézabel était une femme très, très méchante. D'ailleurs, le nom Jézabel signifie fumier. C'est intéressant, hein? Mais c'est la signification du nom Jézabel. Je n'invente rien. Je ne plaisante pas. C'est la signification de son nom. Achab s'est marié avec elle et c'était une de ses alliances matrimoniales qui était pour des raisons politico-religieuses. Ça a toujours existé. Il y a 3 semaines, nous avons visité quelques châteaux de la Loire et nous étions étonnés d'apprendre que il y avait au 16e, 17e, 18e siècle des mariages pour des raisons politico-religieuses entre la famille royale française, italienne, espagnole, anglaise et ainsi de suite. Ça a toujours existé. Et pour Achab, c'était un très mauvais choix. Il est question d'Achab, il est question de Jézabel, il est question aussi du prophète Élie. J'ai failli dire du roi Élie. Du prophète Élie. Élie était un prophète de l'Éternel qui avait reçu un appel clair de la part de Dieu. Il avait déjà vu des miracles dans sa vie et je vous invite à lire 1 Roi 17 chez vous, tranquillement, et vous allez constater que parfois Dieu a dit à Élie, va te montrer. Et puis il a dit, va te cacher. Et puis il a dit, va te montrer. Et c'était un peu un jeu de cache-cache par moment entre Élie et les autorités de son pays. Ce que nous allons lire ce matin, c'est une contestation publique sur le mont Carmel entre Élie, qui invite 850 faux prophètes, et tout le pays et la famille royale à venir sur le mont Carmel. Et c'est une des scènes les plus dramatiques de l'Ancien Testament. Et en lisant ce texte, je vous invite à utiliser votre imagination. Essayez d'imaginer la scène sur le mont Carmel. Élie avait convoqué cette rencontre parce que le peuple de Dieu s'était éloigné de Dieu depuis longtemps. Ils avaient à la fois abandonné le culte de l'Éternel et ils avaient décidé de combiner ou de faire un mélange entre le culte de Jéhovah et le culte de Baal. Baal était un des dieux cananiens. Je crois qu'il va apparaître sur l'écran avec sa femme Asherah, qui était la déesse des cananiens. Et ils avaient essayé de faire un melting pot, une mixture. Pourquoi ne pas mélanger Dieu et les dieux. Le mot pour ça aujourd'hui, c'est le syncrétisme. Et le syncrétisme, c'est toujours quelque chose qui attire du monde aujourd'hui. On prend une partie du christianisme, une partie de l'hindouisme, une partie de l'islam, une partie du Bouddha, et on fait un melting pot. Mais Élie et bien sûr le Seigneur sont farouchement contre cette idée. Alors donc, maintenant nous allons passer à la lecture, et je vous préviens que la lecture sera longue, mais le message qui est déjà entamé sera court. Un roi, 18, et nous allons commencer, malgré ce qui est sur l'écran, à partir du verset 17. Un roi 18, verset 17. Lorsque le roi Achab aperçut Élie, il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéras qui mangent la table de Jézabel. » Achab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté, moi, seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qui choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent, qu'ils le mettent sous le bois, sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sous le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit, « Amen », ou plutôt, « D'accord ». Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous un taureau. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. » Ils criaient à pleine voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approchait de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes, « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, à peu près 15 litres. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Et il leur dit, « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Quel texte, hein? Quel texte! L'enjeu est du détail. Deux taureaux, deux autels, vous priez votre Dieu qu'il envoie le feu. Baal, entre parenthèses, était le Dieu de la pluie, du soleil et du feu. D'accord? Vous priez votre Dieu. Moi, je prierai mon Dieu. Le Dieu qui envoie le feu est le seul vrai Dieu. C'était clair. C'était évident. C'était, dans un sens, facile. Alors, j'ai trois remarques à faire suite à la lecture de ce texte. La première remarque concerne l'opposition ou l'enjeu. Je m'explique. Si on devait donner un titre à cet épisode, je dirais David contre Goliath, match retour. David, c'est Élie, tout seul. Goliath, alors Élie a invité les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashéra. Ça veut dire 850 contre 1. Alors, il semble que les prophètes d'Ashéra ne se soient pas déplacés, parce qu'on ne parle que des prophètes de Baal qui étaient sur place. Bref, c'était pas gagné d'avance. Et en plus, il s'agissait d'un match à domicile, parce que le Mont Carmel était le lieu habituel du culte de Baal. Donc, Élie jouait en quelque sorte à l'extérieur. Alors, vous savez sans doute que je ne suis pas un homme qui parie. Mais je parie que je n'aurais pas parié que Élie remporte la victoire. Vous avez suivi tout ça? Je parie que je n'aurais pas parié que Élie remporte la victoire. Parce que tous ces gens contre lui. Et est-ce que Élie s'en sortirait vivant? Hein? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas gagné d'avance. Ce qui veut dire que ma première remarque, c'est que dans notre vie de tous les jours, Dieu exige notre courage, malgré la situation, malgré l'ambiance. Élie était un homme courageux. Déjà de lancer ce défi, de relever ce défi, et d'oser se lever ce matin-là, se déplacer et faire face à tous ces païens et à ce roi. Jézabel ne s'est pas déplacé. Akab s'était déplacé, qui avait le pouvoir de décapiter Élie sans tribunal, sans procès. Élie était un homme courageux. Et le Seigneur nous demande, bien souvent, d'être courageux, d'agir, malgré la crainte qui nous habite parfois. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque. Chose étonnante, c'est que le président de ce culte, ou le maître de cérémonie, ce n'était pas le roi, ce n'était pas le chef des prophètes de Baal, mais c'était un fugitif, un hors-la-loi, c'est-à-dire Élie lui-même, celui qui préside cette rencontre. Et en discutant, en faisant sa prédication, pour ainsi dire, Élie lance un appel à la conversion. Je vous invite à relire ce texte chez vous, après avoir relu 1 Rois 17, relire 1 Rois 18 dans l'optique d'un message d'évangélisation. Parce que Élie, quand il prêche ici, il fait appel aux sentiments des Israélites, à l'intelligence des Israélites, à la conscience des Israélites et à la volonté des Israélites. C'est tout un message d'évangélisation, mais on ne peut pas tout expliquer là ce matin. Mais Élie pose une question, vous avez remarqué la question? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? C'était sans doute une expression courante à l'époque, et l'équivalent aujourd'hui, ce serait quoi selon vous? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Voilà. Jusqu'à quand allez-vous rester assis entre deux chaises? Soit vous êtes avec Baal, soit vous êtes avec le Seigneur. Les gens étaient assis entre deux chaises. En anglais, l'expression, on ne parle pas des chaises, on parle d'une clôture. Jusqu'à quand allez-vous rester assis sur la clôture? Vous devez aller à droite ou à gauche? C'était une bonne question. Et moi, j'ai envie de reposer cette question ce matin à chacun. Si vous n'êtes pas converti, jusqu'à quand est-ce que vous allez attendre? Rester assis entre deux chaises, deux bancs. C'est pas très confortable. Ou si vous êtes converti, jusqu'à quand est-ce que vous allez rester en donnant ça au Seigneur, quand le Seigneur vous demande ça? Pendant le temps en séminaire, plusieurs personnes sont venues nous parler en disant, mais le Seigneur nous parle. Il veut qu'on s'engage davantage, mais on a peur de ci, on a peur de ça. Le Seigneur nous demande de nous engager davantage. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va rester assis entre les deux chaises? Josué, quelques siècles auparavant, avait dit quelque chose de semblable quand il a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est un choix pour tout non-chrétien et pour tout chrétien. Jésus dit quelque chose de semblable des siècles plus tard, celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Donc, ma deuxième remarque, Dieu exige notre obéissance. C'est ça que Élie dit au peuple. Troisième remarque. Vous avez vu, les prophètes de Baal prient. Mais ce, pas seulement ils prient, mais ils crient, ils sautent, ils dansent, ils courent, ils se scarifient, ils se font mal, ils font couler leur sang en demandant à leur Dieu de répondre à leur prière. Quel cinéma, quelle folie, quelle frénésie, quelle singerie. Et vu tout cela, Élie se permet de se moquer d'eux. Est-ce qu'on devrait se moquer des non-croyants? Alors, dans ces contextes-là, je pense qu'Élie avait raison. Et il est écrit dans le psaume 2, « Le Seigneur est au ciel, il regarde la terre qu'il rejette. » Et il est écrit, « Dieu se moque des habitants de la terre qui courent à droite et à gauche et qui se tournent le dos à l'Éternel. » En tout cas, Élie se moque d'eux. Et il dit, ah, peut-être votre Dieu est parti, peut-être votre Dieu est absent, peut-être votre Dieu est en voyage, peut-être votre Dieu est trop occupé. Non, il n'aurait pas fait la liaison. Trop occupé. Dans la Bible d'Arby, il est traduit, peut-être votre Dieu est allé à l'écart. Et ça veut dire, peut-être votre Dieu est allé faire pipi. Aux toilettes. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Vous savez, Élie accuse Baal des choses dont on ne pourrait jamais, jamais accuser le Seigneur. Lorsque nous prions le Seigneur, il n'est jamais sourd. Il n'est jamais trop occupé. Il n'est jamais fatigué. Il ne dort jamais. Il ne sommeille jamais. Le psaume 121. Celui qui est assis dans le ciel penche son oreille vers nous. Et dites-vous bien ce matin et tous les matins que Dieu, notre Dieu n'est jamais, jamais, jamais trop occupé pour nous. Il ne sera jamais hors réseau aux abonnés absents. Il est toujours prêt à nous entendre et à nous écouter. Troisième remarque donc, Dieu exige notre foi, tout comme il a exigé la foi du prophète Élie. Vous vous rendez compte du défi qu'il a lancé? Je vais prier, et malgré le fait que j'ai tout mouillé trois fois, Dieu va faire allumer le feu. Dieu va envoyer le feu. Alors, on n'a pas besoin d'être grand scientifique pour comprendre qu'une allumette mouillée ne va jamais allumer un feu. Mais tout était trempé. Et Élie, sans se couper, sans crier, sans danser, sans sauter, Élie a prié. Tout simplement que Dieu envoie le feu. Cet épisode époustouflant, qu'est-ce qu'il nous enseigne au sujet de notre Dieu? Eh bien, je propose qu'en réponse au courage, à l'obéissance et à la foi d'Élie, et en réponse à notre courage, à notre obéissance et à notre foi, nous apprenons trois choses. Le Seigneur nous promet sa force. Quand on se lance avec lui, il promet de nous fortifier. Deuxièmement, le Seigneur nous promet sa protection. Élie, comme je disais, aurait pu se faire décapiter en toute légalité, même si c'était illégal, mais en toute légalité. Mais il était protégé par le Seigneur. Et lorsque nous nous montrons courageux, obéissants, confiants et fidèles, le Seigneur nous promet sa protection. Et la troisième chose, le Seigneur nous promet son écoute. Parce que Élie prie et Dieu répond. J'aime bien le psaume 116, verset 1, qui est aussi, qui donne le titre à notre livre, un de nos livres de chants, J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel. C'est le titre du premier chant dans J'aime l'Éternel, dans J'aime 1, comme on dit. Et ça vient du psaume 116. Dieu nous entend. Jonas, même dans le ventre d'un gros poisson, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. J'ai appelé au secours et tu m'as écouté. Tu as écouté, pardon, ma voix. Jonas 2, verset 3. Le Seigneur promet sa force, le Seigneur promet sa protection, le Seigneur promet son écoute à condition que nous nous montrions courageux, obéissants, confiant et fidèle. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué le but ou l'objectif de la prière d'Élie au verset 36 et 37. Il dit tout simplement, Seigneur, je veux que toi seul, tu sois glorifié. Quand nous prions, ne demandons jamais qu'on parle de nous. Demandons au Seigneur qu'on parle toujours de lui. Dans sa prière, il voulait que Dieu seul soit glorifié. Et dans sa prière, il s'adresse au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ou d'Israël. C'était le nom du Dieu de l'Alliance, le Dieu fidèle. Comme quoi, dans la prière d'Élie, il évoque la fidélité du Seigneur. Il savait que Dieu était un Dieu fidèle. Élie, vous savez ce que ça signifie? Jéhovah, l'Éternel, est Dieu, ou plutôt mon Dieu. Rien que sa présence était déjà tout un message, toute une prédication dans la signification de son nom. Jéhovah est mon Dieu. Conclusion. Je vous ai dit que le message serait court, même si la lecture était longue. Mais la conclusion, ça vaut presque tout le message. Non, je plaisante. Une théocratie non pas une démocratie. Le dernier verset peut choquer ou heurter certaines sensibilités. Où 450 personnes sont égorgées à côté d'une rivière. Alors nous devons nous rappeler que Israël n'était pas une démocratie, mais une théocratie. Le Seigneur était leur roi, leur chef d'État. Et dans le code civil en Israël, il y avait des textes de loi qui expliquaient la peine pour certains crimes et délits. Et pour certains crimes, pour certains délits, le jugement était très sévère et c'était la peine de mort. C'était l'époque de la théocratie à l'époque d'Israël avant que Jésus ne vienne. Il y a des textes dans Exode 32, Lévitique 11, Deutéronome 13 et 17 qui parlent de la peine de mort pour Israël à cette époque-là. Ça, c'est la première chose qu'on doit se rappeler. Une théocratie et non pas une démocratie. Deuxième chose, Dieu est le seul Dieu. Quelqu'un a proposé un chant tout à l'heure où nous avons chanté, l'Éternel, tu es le seul Dieu. Au-dessus, tu es le roi, au-dessus de la terre. Éternel, tu es le seul Dieu. Les Baals, les Asherahs et tout ce qu'on veut nommer, ce sont des faux dieux. Et on va revenir à ça, à cette idée-là, dans les mois à venir. Mais dans cette situation, nous voyons de façon incontestable que Dieu est le seul Dieu. Il est unique. Les théologiens parlent de l'unicité de Dieu. Le fait que Dieu est unique, au-dessus de tout autre. D'ailleurs, le prophète Isaïe, dans une de ses prédications, dans son livre, il pose la question de la part de Dieu, « Mais avec qui voulez-vous me comparer ?» On ne peut pas comparer Dieu à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Car Dieu est un Dieu unique. Troisième chose, et c'est important de le savoir et de se le dire en cette période de rentrée, il me semble, Dieu est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu de l'incroyable, il est le Dieu de l'impensable. Qui aurait pensé faire un truc comme ça sur le Mont Carmel? Impensable. Mais Dieu, il est le Dieu de l'impossible, de l'incroyable et de l'impensable. Dieu accompagne ceux qui se lancent par la foi. Dieu équipe ceux qui se mettent à son service. Dieu accompagne ceux qui, après un été, doivent faire face à des challenges, à des défis, à des difficultés lors de la rentrée. Que ce soit à l'école, à la fac, au boulot, dans la famille, le Seigneur promet de nous accompagner et nous devons nous rappeler sans cesse, il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu de l'incroyable, il est le Dieu de l'impensable. Il y a quelques années, nous étions dans une équipe d'évangélisation et on allait faire du porte-à-porte. Et le porte-à-porte, c'est pas le truc que j'aime le plus. Et après quelques nuits blanches, plus de l'équipier avait mal dormi parce qu'on savait que tel jour on allait faire du porte-à-porte. Et on avait un moment de prière avant d'aller sonner chez les gens pour leur parler du Seigneur et les inviter à une réunion. Et un des frères pendant le moment de prière a prié de la façon suivante. Seigneur, nous voulons te remercier car nous avons le Dieu du prophète Élie avec nous aujourd'hui. Mais nous voulons prier, Seigneur, que tu nous donnes la foi du prophète Élie aujourd'hui. Alors, après cette prière, on voulait sonner sur toutes les portes, dans tout le pays. Parce que le Seigneur nous a parlé. On a le Dieu du prophète Élie. Seigneur, que nous puissions avoir la foi du prophète Élie. Eh bien, je vous propose comme sujet de prière en cette période de rentrée. Oui, nous avons le Dieu du prophète Élie avec nous. Attendez une demi-heure. Puissions-nous avoir la foi du prophète Élie en nous, avec nous, en nous. Prions. Seigneur, nous te remercions car cet épisode époustouflant nous rappelle tant de choses. et nous enseigne tant de choses. Seigneur, nous n'aurons jamais des défis comme ça devant nous. Mais tu vois les défis que nous avons aujourd'hui et dans les jours à venir. Merci car nous avons le Dieu du prophète Élie avec nous. Seigneur, que dans notre vie de tous les jours, nous puissions avoir la foi, la confiance du prophète Élie en nous. Aide-nous à t'obéir, aide-nous à être courageux, aide-nous à relever les défis que tu nous donnes. Et merci car tu nous promets ta force, ta présence, ta protection et ton écoute. Seigneur, que tu sois loué pour tout cela. Amen.
Cette reprise et cette année, je vous souhaite à tous un bon dimanche.